Edmond Alfandéry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous serez le futur président du Center for European Policy, le CEPS, au 1er janvier 2014. On vous connaît comme ancien président d'EDF et puis vous êtes administrateur de GDF Suez. Vous connaissez bien les dossiers concernant l'énergie. On va en parler avec vous aujourd'hui. Nous sommes à Paris Europlace où vous allez intervenir lors de cette conférence. On a eu l'impression avec cette crise financière, économique et financière, même si peut-être la météo nous a rappelé qu'il se passait quand même quelque chose sur notre planète, que finalement on avait mis un peu de côté ces dossiers d'environnement. Est-ce que vous pensez que vous sentez qu'on va à nouveau en reparler?
D'abord, je ne vais pas parler en tant que ancien responsable, évidemment, président d'EDF, et certainement pas non plus en tant que membre du conseil d'administration de GDF Suez. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les problèmes. Je suis économiste de formation, comme chacun sait, et donc je vais m'exprimer en tant qu'économiste et citoyen, évidemment, sur ce problème d'une extrême importance. Je dis bien extrême importance. Je crois qu'il y a deux grands problèmes économiques que nous affrontons à court terme, sortir de cette crise monétaire, et notamment la crise de la zone euro et de la récession dans laquelle nous sommes, qui est une vaste question, et à plus long terme, faire face à ces problèmes de déséconomie externe, comme disent les économistes, et notamment de réchauffement de la planète, qui sont extrêmement, extrêmement préoccupants à long terme. L'Agence internationale de l'énergie publie chaque année un rapport dans lequel elle lance un cri d'alarme. Et dans son dernier rapport de 2012, elle dit très clairement que le scénario sur lequel elle travaillait d'une augmentation maximum de 2% de 2 degrés avant la fin du siècle était très sérieusement compromis. Et donc, nous le voyons tous les jours dans notre vie quotidienne, les perturbations climatiques se multiplient et l'on voit bien que ce réchauffement peut créer des problèmes considérables à l'avenir. Et le problème, si vous voulez, c'est que c'est très difficile à l'appréhender politiquement. C'est très difficile à appréhender d'abord parce que ça n'est pas linéaire. Il peut y avoir des années plus fraîches, comme ça a été le cas cet hiver, où les gens peuvent se dire au fond
On
finalement
parle de réchauffement, on se moque de nous.
où est le réchauffement.
Oui.
Et puis les pays sont touchés de manière très diverse, évidemment, selon leur position. Et donc c'est un sujet très difficile, mais il n'empêche que je crois que c'est un sujet d'une extraordinaire importance. Et qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, l'aborder avec beaucoup de sérieux. On a commencé à le faire à Kyoto, on a essayé. Plusieurs pays, notamment les États-Unis, n'ont pas voulu prendre les choses très au sérieux. Mais ils ressentent chaque jour les conséquences de ces perturbations climatiques. Et
Est-ce qu'il n'y a
il
pas un manque sur le fond, parce que vous parlez du court terme et du long terme? Donc on voit ces chiffres effectivement qui peuvent être alarmistes ou alarmants de ce qui pourrait se passer dans le futur. Et puis on a le court terme où finalement les politiques, qui eux, pour certains c'est un mandat de 4 ans, un mandat de 5 ans, se disent finalement ça intéressera le suivant, je peux encore attendre. Et puis on n'a pas vraiment de chiffrage aujourd'hui. Il y a quelques économistes anglais qui ont essayé de chiffrer pour enfin donner à la planète finance aussi une idée du coût des catastrophes. On a peut-être, il y a un manque là-dessus sur, entre guillemets, coût-bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice, on le sait, mais pour un financier, on
Écoutez,
peut.
il y a de plus en plus d'études, et de plus en plus d'études convergentes, et aujourd'hui l'immense majorité des scientifiques qui se penchent sur ce phénomène convergent vers les risques que nous avons. D'autre part, sur le plan politique, c'est vrai, mais ce que je constate avec plaisir, c'est que le président Obama, très récemment, il y a quelques jours, a pris des positions extrêmement fermes en exhortant les Américains, vous savez qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il est bien obligé de compter avec le Congrès, en exhortant le peuple américain à faire les efforts qui s'imposaient pour faire face à cet immense défi, qui est un défi considérable. Alors pourquoi c'est un défi considérable ? Nous le savons bien, parce que si vous voulez, contrairement au marché où il y a toujours un prix, là, malheureusement, les dégâts ne sont pas évalués, ne sont pas supportés par ceux qui... Ils sont supportés dans leur vie quotidienne, mais il n'y a pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit l'idée de faire payer le carbone, oui, l'émission de gaz carbonique. Il y a eu deux techniques qui sont sur la table. Et il y a une technique qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui consiste à mettre en place un marché du carbone. Nous allons en parler tout à l'heure, dans le cadre d'Euromplace, il va y avoir un débat, nous allons échanger nos opinions, parce que les gens sont divisés sur ce problème-là, il n'y a pas d'unanimité. Le marché du carbone, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à essayer de fixer un plafond au volume des émissions de carbone. On dit, voilà, il y a tant d'émissions de carbone, voilà l'objectif que l'on se fixe. On distribue les permis d'émission à tous ceux qui produisent du gaz carbonique, les entreprises ou les centrales thermiques, etc. Et lorsqu'elles ont des besoins inférieurs au permis qu'elles ont, elles peuvent les vendre à celles qui ont des besoins supérieurs. Et donc, il y a un prix qui s'établit sur le marché entre l'offre et la demande, qui est le prix du carbone. Alors ça, c'est un dispositif qui a été mis au point à Kyoto, au niveau international, qui a été mis en œuvre avec un succès très mitigé et qui a été adopté par l'Union européenne. Ce principe-là, il a un très grand... Cette méthode a un très grand défaut, que je vais développer tout à l'heure, et qui est d'ailleurs reconnu par tous les économistes. C'est que le prix du carbone peut évoluer considérablement.
Ce qu'on avait vu sur ce marché.
Considérablement. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut aller, tenez-vous bien, de plus de 30 euros la tonne, 35 euros, et tomber à 3 ou 4 euros aujourd'hui, entre 3 et 4 euros. C'est-à-dire qu'il peut tomber au dixième du prix qu'il avait il y a quelques mois avant. Alors pourquoi c'est très ennuyeux ? Parce que si vous voulez, ce qui est important dans un prix, c'est le signal qu'il donne pour les consommateurs et pour les producteurs. Pour les consommateurs, si vous avez un prix du carbone qui est relativement élevé et qu'il reste à un certain niveau, à ce moment-là, ils ont intérêt évidemment à faire des économies d'énergie, à réduire leur consommation. Les producteurs, si le prix est élevé, ils ont intérêt à aller faire de la recherche pour faire baisser le prix des renouvelables, le solaire, etc. Ils ont intérêt évidemment à réduire leur production par le charbon, puisque c'est plus cher, et ainsi de suite. Et pour l'ensemble de la collectivité, si elle connaît le prix sur le long terme, la collectivité fait les investissements qui s'imposent pour améliorer, pour tenir compte d'une économie qui fonctionne avec une énergie plus propre. Le problème, c'est que si vous avez un prix qui fluctue et dont on ne sait pas où il va être dans quelques années, les comportements ne s'adaptent pas.
On pourrait dire qu'en Europe, on a eu en plus un autre problème lié à la TVA, et donc il y a eu effectivement de gros problèmes liés à la TVA.
Oui, et puis alors, vous avez un problème escroquerie en Europe.
Vous avez
des marchés qui sont...
C'est-à-dire qu'on n'était même pas dans le... On va dire, on n'était même pas concerné qu'on pouvait monter une société dans un pays au Danemark et aller sur le marché français du carbone, pour simplifier.
Oui, sans compter qu'en Europe, vous avez un autre problème qui vient de la concurrence du shale gas, du gaz de schiste américain. Les Américains ont mis en place une exploitation intensive du gaz de schiste, ce qui a fait baisser considérablement le prix du gaz aux États-Unis, qui a chassé le charbon, qui est devenu beaucoup moins intéressant, notamment pour fabriquer de l'électricité, et ils exportent leur charbon très bon marché vers l'Europe, et l'Europe maintenant reproduit l'électricité de produit l'électricité avec du charbon, ce qui est ridicule parce qu'on est évidemment c'est ce qui produit évidemment le plus de gaz carbonique.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, parce qu'on a, si on a eu ce marché là qui a pas fonctionné.
Je veux dire ce que je pense. On peut garder éventuellement le marché du carbone, ça ne me gêne pas, parce que les mécanismes de marché quand il y a des mécanismes de marché, c'est pas forcément absurde de les conserver, bien au contraire. Mais je crois que, qu'on le veuille ou non, et beaucoup d'économistes partagent ce sentiment, et beaucoup d'industrialistes et de gens dans le monde des affaires, je crois que ce qu'il faudrait mettre en place, c'est une taxe carbone.
Taxe carbone.
Oui,
plutôt.
Une taxe carbone. Alors, c'est en dehors de toute considération politique. Hein, je le dis très clairement, c'est en dehors de toute considération politique. Pourquoi le gouvernement est en train d'essayer de le mettre en place? Le gouvernement antérieur avait essayé sans succès. Aujourd'hui, le gouvernement Cameron, qui est conservateur, le met en place. Il le met en place en ce moment. Donc, c'est indépendamment de considération politique. Mais pourquoi? Pourquoi je crois qu'il faudrait mettre en place une taxe carbone, mais avec des précautions, hein, parce que c'est très important.
On terminera là-dessus si vous voulez bien.
Oui, oui, c'est très important. Je pense que ce qu'il faudrait, si vous voulez, c'est établir un plancher connu à l'avance de l'évolution du prix des énergies fossiles, incluant la taxe carbone, sur la longue période. Avec un plancher, par exemple, nous pourrions dire que chaque année, la taxe carbone est telle que le prix de l'essence à la pompe ne peut pas être inférieur à, d'une année sur l'autre, à l'indice des prix plus 2%. Et chaque année, on augmente 2%, sachant que ça augmente 2%. Ce qui fait qu'en 2030, on sait quel sera le prix de l'énergie. Et à ce moment-là, et ça, c'est un plancher. C'est-à-dire que, là, évidemment, la taxe ne s'appliquerait pas lorsque les énergies fossiles, les énergies augmentent plus que ce plancher. Alors pourquoi ce serait, à mon avis, extrêmement utile? Ce serait extrêmement utile parce que ça permettrait à tous les investissements de s'adapter, parce qu'on saurait, qu'à un horizon de 2030, ben, l'énergie est à l'énergie fossile à ce niveau-là. Donc immédiatement, les producteurs s'adapterait et ce serait une formidable incitation à développer les énergies renouvelables. Les consommateurs adapteraient évidemment et feraient des efforts.
Isolation,
etc. Ouais, et donc tout le monde s'adapterait, sans compter les équipements collectifs qui devraient s'adapter.
Alors, donc quelque part, c'est redonner de la visibilité.
Une énorme visibilité à long terme. Et d'un seul coup, c'est à mon avis un moyen pour relancer les investissements dans un secteur indispensable pour notre avenir à tous. Alors, il y a deux précautions à prendre, très importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que ceci, si c'est fait sans précaution, peut avoir des conséquences sociales très lourdes. Et il faut donc faire très très attention, d'autant que c'est bien connu que ce sont les gens les plus vulnérables, qui ont les revenus les plus faibles, qui sont les plus touchés par une augmentation du prix des énergies fossiles. Donc il est évident que ceci ne peut être fait qu'à taxation constante. C'est-à-dire, je suis partisan de ce système, évidemment, sous réserve qu'il soit, cette augmentation soit strictement compensée par une baisse de la TVA. Donc ça, c'est d'une importance considérable. On ne peut pas augmenter la pression fiscale, surtout dans un pays comme la France. Donc il faut le compenser par une baisse de la TVA, ce qui fait que le pouvoir d'achat n'est pas affecté. Et pour les entreprises, évidemment, il faut faire attention à la compétitivité des entreprises. Et donc il faut compenser cette augmentation du prix des énergies fossiles par une baisse d'autres taxes. Et là, nous n'avons que l'embarras du choix. Mais il faut évidemment que ce soit à charge constante. Voilà. Et si nous faisions ça, je pense que nous pourrions mettre en place un dispositif qui, en tout cas, préserverait l'avenir parce qu'il y a un très grand danger pour la planète.
Eh bien, écoutez, on reparlera ce sujet d'énergie forcément, et pas simplement parce qu'il y a des hausses des prix, mais parce qu'il y a un sujet de fond là-dessus. Merci Edmond Lalfandéry d'avoir été avec nous.